Amis de RMC, on s'attaque à du très lourd aujourd'hui, after Coupe du Monde spéciale Angleterre, le pays qui a inventé le foot, une nation de stars aussi, Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, un champion du monde, un éternel favori mais aussi l'image d'un éternel loser depuis 60 ans maintenant.
RMC, after Coupe du Monde, les 48 équipes.
Aurélien Thiersin.
Amis de RMC, bonjour, bienvenue, la Coupe du Monde de foot, c'est là, ça y est, sur RMC en intégralité du 11 juin au 19 juillet. Et aujourd'hui, on va parler du berceau du foot, un champion du monde, 1966, mais aussi un éternel loser, malheureusement, pour cette nation depuis 60 ans désormais. After Coupe du Monde spéciale Angleterre, alors vous l'écoutez en podcast, vous le regardez sur After Foot TV, sur YouTube, on est partout, vous avez l'habitude sur RMC. L'Angleterre, qui sera donc dans le groupe L de la Coupe du Monde avec la Croatie, le Ghana et le Panama, avec des stars mondiales, Harry Kane, Jude Bellingham, un coach étranger également, Thomas Tuchel, un statut de favori comme toujours, ou presque. Doit-on encore croire à une victoire en Coupe du Monde de l'Angleterre? Pour en débattre, on est avec la drôle de dame, Angleterre évidemment de RMC. Salut Julien Laurence.
Salut Aurélien, salut à tous.
Et on est avec Andy Brassel, journaliste anglais, francophone et animateur du podcast On the Continent. Salut Andy, ravi de t'accueillir.
Salut, ça va ?
After Coupe du Monde, Angleterre, ça va très bien, merci. Et donc la dernière image de l'Angleterre qu'on a en Coupe du Monde, en tout cas la mienne, c'est ce pénalty raté d'Harry Kane contre la France en quart de finale du Mondial 2022. Alors est-ce que c'est encore un traumatisme en Angleterre, Andy, parce qu'entre les tirs au but, les séances de tirs au but perdues par l'Angleterre en Coupe du Monde ou en grande compétition en Euro et ce pénalty, il y a quand même un problème de malédiction, là on en est là, c'est, l'Angleterre est maudite, Andy.
C'est pas un traumatisme pour Harry Kane, bien sûr, parce qu'il marque un penalty tous les temps pour le Bayern. Donc, c'est peut-être oublié pour lui. Pour l'Angleterre, pas si sûr, parce qu'on avait l'impression d'avoir fait un grand match contre la France il y a 3 ans et demi, et de faire pratiquement tout ce qu'il a fallu. Mais encore une fois, comme tu as dit au début, on n'est pas arrivé. Et c'est la même histoire tout le temps, malheureusement. Mais en fait, je pense que le grand changement pour cette Coupe du Monde, c'est qu'avec Thomas Tuchel, parce qu'on a passé des moments vraiment extraordinaires sur Gareth Southgate, c'est que c'est le moment de gagner ou pas avec Thomas Tuchel. Il a été donné le boulot pour gagner la Coupe du Monde. Et franchement, il n'y a pas d'autre option. C'est gagner ou rien.
Ouais, c'est ça aussi ton avis, Julien. Toi qui vis en Angleterre, qui connais très bien cette équipe des Trois Lions. Regardez, alors c'est une anecdote quelque part, ces séances de tirs au but perdus. Pour ceux qui nous écoutent en podcast radio, il y a la demi-finale du Mondial 90 contre la RFA, en demi de l'Euro 96 contre la RFA, huitième du Mondial 98 contre l'Argentine, quart de finale 2006 contre le Portugal, la finale de l'Euro 2021. À l'arrivée, ça fait de toi un éternel loser, alors que parfois tu es excellent sur le terrain, mais tu n'y arrives jamais, Julien, tu n'y arrives jamais. Mais c'est quoi l'état d'esprit en Angleterre aujourd'hui?
C'est quand même que ça se rapproche pour ceux qui veulent rester positifs. Alors, il y a toujours avant une Coupe du Monde, surtout avec la pression ici, notamment médiatique, des tabloïds, il y a beaucoup plus de médias ici en Angleterre qui suivent le foot et de très près qu'on a par exemple en France. Donc, il y a cette pression médiatique sans aucun doute. Il y a ceux qui sont plus sceptiques et plus pessimistes, on va dire, entre guillemets, qui effectivement voient un petit peu ce côté loser de l'Angleterre. Alors, même si effectivement l'infographie elle est vraie, mais il y a aussi d'autres. Séance de tirs au but qu'ils ont gagné entre 2006 et 2021 d'ailleurs, et ils ont beaucoup progressé aussi à ce niveau-là dans l'approche mentale d'un exercice comme une séance de tirs au but, même si la finale de l'Euro chez eux en plus, ça restera celle-là encore plus que la défaite contre l'équipe de France au Qatar, un vrai traumatisme en revanche. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui sont positifs ici parce que tu t'en rapproches quand même entre la demi-finale de 2018, les deux finales d'Euro qui ont suivi, même le quart de finale contre la France, parce que comme l'a dit Andy, c'était plutôt une bonne performance et au final ça joue à quelques petits détails. Donc tu sens quand même que ça se rapproche beaucoup plus par exemple que Coupe du Monde 2014, Coupe du Monde 2010. Et même les euros qu'on précédait, en tout cas ceux où ils y étaient. Donc ça se rapproche pour ceux qui veulent être positifs, et pour les plus pessimistes, bah, effectivement, comme tu l'as dit, c'est les éternels losers.
Bon, Andy, on va aussi refaire un petit récapitulatif de l'histoire de l'Angleterre avec la Coupe du Monde. Alors, c'est un rapport très spécial. Première Coupe du Monde en 1950, parce qu'avant ça, il y a eu des petites bisbilles avec la FIFA. Titré en 1966 avec le fameux but fantôme de Geoffrey Hurst contre l'Allemagne en finale. Donc, même quand tu gagnes en Angleterre, il y a un problème à aller gratter. Et puis ensuite, il y a quand même des demi-finales en 1990, en 2018. C'est une histoire d'amour, mais aussi un petit peu de répulsion, Andy, entre l'Angleterre et la Coupe du Monde.
Ouais, on peut dire. Et c'est sans mentionner les années 70, où on était hors de la Coupe du Monde, pratiquement. C'était une période très difficile. Mais en fait, je pense que l'histoire moderne de l'équipe anglaise et la Coupe du Monde, c'est tout changé avec l'arrivée de Gareth Southgate. Comme j'ai dit avant, parce que c'est un peu comme avant l'arrivée de Southgate, on a un peu perdu l'espoir, je pense, parce qu'on est arrivé avec l'étiquette de grand favori, comme tu as dit, chaque fois, mais on a déceptionné les supporters chaque fois aussi. Mais avec Southgate, c'est en 2018, on est arrivé sans expectation spéciale. On est arrivé en demi-finale. On avait l'opportunité de battre le Croatie. On a dominé avant la prolongation, c'est juste à dire. Mais c'est vraiment changé l'image qu'on a eue de la sélection anglaise. On a pris une nouvelle confiance en nous-mêmes. Et ça a vraiment changé le donne pour l'équipe anglaise.
Ah bah alors, ton avis, Julien Laurence, m'intéresse là-dessus, parce que pour les amoureux de RMC, on sait ton amour pour Gareth Southgate, mais Andy a raison. Il y a une demi et un quart de finale en Coupe du Monde, il y a deux finales d'Euro, donc le bilan, alors malgré, donc tu restes un loser, mais le bilan global est quand même excellent avec Gareth Southgate.
Oui, c'est vrai. Moi, vous savez, comme je l'ai souvent dit, j'étais pas vraiment fan du tacticien, plus que de l'homme ou du manager qui pouvait être à l'intérieur de ce vestiaire-là et de cette équipe d'Angleterre. Il a pacifié les relations entre le vestiaire et les tabloïds notamment, en tout cas les médias anglais. Il a ramené effectivement beaucoup de calme, parce que c'est quelqu'un qui est très calme, qui est très posé. Il a su le transmettre à son effectif. Il a aussi eu, il faut le reconnaître quand même, une génération qui est assez exceptionnelle. Des Harry Kane, les Anglais n'en ont pas connu beaucoup dans leur histoire. Et on peut regarder poste par poste, au-delà même de la génération dorée de Lampard, Gerrard, Scholes, etc. Au-delà même de Rooney, pour moi, la génération Southgate, c'est quand même une très très belle génération. Ce qui m'a gêné, c'est qu'au final, je pense que ses limites à lui ont malheureusement trop influencé cette équipe sur le terrain, d'où les défaites, notamment celle à domicile contre l'Italie en 2021, quoi. Mais il a fait beaucoup de bonnes choses, ça c'est sûr. Il a, comme l'a dit Andy, il a ramené cette équipe-là au niveau qui est le sien, en tout cas, c'est-à-dire celle des vrais prétendants, parce qu'on avait connu avant. Et juste pour rebondir sur ton point aussi, Aurèle, sur... C'est l'amour et la répulsion et love and hate pour les Anglais, en tout cas en Coupe du Monde. Il y a le but contre l'Allemagne, par exemple, de Lampard en 2010 qui franchit la ligne, qui n'est pas donné. Il y a la main de Maradona, bien sûr, et ce match incroyable contre Maradona en 86. Donc, avec les Anglais, il se passe toujours quelque chose, de bien ou de pas bien. À la Coupe du Monde, il se passe toujours quelque chose.
Donc là, ça sera contre la Croatie, le Ghana et le Panama. On parlera des objectifs à la fin de cette émission. Alors, on va se projeter donc sur ce Mondial 2026. Et Andy, sur la qualification de l'Angleterre, ça a été assez impressionnant. Qualifié très tranquillement. Mathématiquement, c'était la première nation européenne avec son ticket validé. 8 matchs, 8 victoires devant l'Albanie, la Serbie, la Lettonie et Andorre. Donc facile, mais 22 buts marqués, aucun encaissé. C'était une balade pour l'équipe de Thomas Tuchel.
Oui, mais en fait, ça ne veut rien dire quand on arrive dans le final d'un tournoi, parce que c'est toujours le cas avec l'Angleterre, avec le tirage au sort. On est assez chanceux et c'est normal parce qu'on gagne pratiquement tous les matchs en qualification. Donc, c'est vraiment difficile pour les gens ici, et même les gens qui sont obsédés avec le foot, de vraiment trouver un enthousiasme pour la campagne de la qualification. C'est toujours difficile de remplir le Wembley pour tous les matchs aussi. Donc, on voit quelquefois le système de la France, vous jouez à à Metz ou à Lyon.
On délocalise les matchs.
Ouais, c'est une idée excellente. La dernière fois qu'on a eu ça, c'est durant la construction de le nouveau Wembley. Mais depuis, on a toujours joué là-bas. Et c'est un peu triste parce que c'est clair qu'il y a des autres parties de l'Angleterre avec une grande histoire et un grand soutien pour le football, comme Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle, par exemple. Mais pour ça, je pense que c'est juste attendu qu'on gagne tous les matchs dans la qualification. Et en fait, je pense que Thomas Tuchel peut-être a eu l'opportunité d'expérimenter, d'essayer des choses un peu plus qu'il y avait. Parce que le problème pour nous, quand on arrive à cette Coupe du Monde, c'est il y a 2 ans, après l'Euro, même si toutes les prestations n'étaient pas fantastiques, le résultat, si, mais comme Julien a dit, le tactique était un peu quelconque et les prestations aussi. Peut-être c'est normal après une saison si longue pour les grands joueurs, mais en fait, je pense que Thomas Tuchel, il a vraiment une idée de son équipe type, pour moi. Il y a beaucoup de questions sur l'11 titulaire de l'Angleterre qui va commencer la Coupe du Monde.
Bah, on va en parler tout à l'heure justement de ce 11 type potentiel. Julien, un petit mot sur cette campagne de qualification. Je vous demande de m'excuser pour ma voix, hein, évidemment. Elle est un petit peu cassée après un match de football que j'ai commencé hier soir. On enregistre cette émission le 1er mai. Il y a eu 2 matchs amicaux, Julien, pendant cette période à Wembley. Défaite contre le Sénégal et contre le Japon. Est-ce que tout ça, ça a douché un petit peu les ambitions anglaises ou c'est simplement des tactiques tentées par Thomas Tuchel pendant cette période de qualif qui a été facile pour l'Angleterre.
Un petit peu des deux, parce que c'est l'autre lecture finalement hein, de cette période sous Tuchel et de ces éliminatoires-là, c'est que dès que l'Angleterre a joué une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, donc c'est les 3 matchs amicaux, le Sénégal et l'Uruguay et le Japon dont tu viens de parler, Aurel, ils n'ont pas gagné. Donc tu bats tous ceux que tu as dans les éliminatoires, pas de problème, mais aucune de ces équipes-là seront à la Coupe du Monde. En revanche, les équipes que tu affrontes qui seront à la Coupe du Monde, tu es battu 2 fois et tu fais un match nul, certes, t'aurais pu gagner, tu prends un penalty à la dernière minute sur une erreur un petit peu naïve, défensive et une faute dans la surface, etc. Mais quand même, c'est 3 matchs où tu ne gagnes pas. Et ça, à mon avis, même si effectivement, si on regarde ces 3 matchs amicaux-là, il y a eu des essais, il y a eu des choses que Thomas Tuchel a fait. Pour moi, il s'est un peu perdu lors du dernier rassemblement et ce qu'il a voulu faire avec son effectif pour les matchs contre l'Uruguay et le Japon. Mais tu comprends un peu ce qu'il veut faire dans les essais, comme l'a dit Andy, essayer des choses un petit peu différentes et tout ça. D'ailleurs, c'est un sélectionneur qui est très différent de tous les sélectionneurs qu'on a pu avoir ici en Angleterre. Mais la réalité, c'est que les 3 matchs contre 3 équipes qualifiées au Mondial, il y a 0 victoire.
L'after Coupe du Monde spéciale Angleterre. On a parlé donc de la qualification des Anglais à cette Coupe du Monde. On va détailler l'effectif désormais et on va se pencher aussi sur le coach de cette équipe, Thomas Tuchel. L'after Coupe du Monde spéciale Angleterre, donc un cador de cette Coupe du Monde à venir. Andy, on a sur le banc Thomas Tuchel, un Allemand sur le banc des Anglais. C'est le 3e étranger de l'histoire après Sven-Goran Eriksson et Fabio Capello. Alors, est-ce que ça passe tranquille en Angleterre ou est-ce que voilà, c'est le football mondialisé ou quand même on se dit bah, on a des talents en Angleterre, on pourra en mettre un sur le banc.
C'est assez tranquille en ce moment et c'est que... Je ne dirais pas que Thomas Tuchel est maître de la communication. Et quelquefois, il est un peu trop direct, un peu maladroit avec ses mots. Et on a des problèmes quand il a prononcé ce Jude Bellingham, par exemple. Et après, il a fallu expliquer un peu plus et tout ça. Donc, il n'a pas le même style de Gareth Southgate, qui est, comme Julien a dit, est très propre et très sensible aux médias aussi et a créé une ambiance et une culture très différente autour de l'équipe nationale. Mais par contre, on n'est pas, il connaît le jeu en Angleterre. Il y a une vraie différence pour moi entre Thomas Tuchel et les 2 autres étrangers que... On a parlé de...
Oui, Eriksson et Capello.
Eriksson et Capello. Et il y a peut-être un petit truc, parce que tu connais toujours que quand il arrive un grand entraîneur de l'étranger, comme Eriksson, comme Capello et maintenant comme Tuchel, c'est une relation très transactionnelle. parce que tu sais qu'il arrive juste pour gagner et il n'y a pas d'excuses et pas d'autre chose. Donc, il y a beaucoup de problèmes, je pense, pour Thomas Tuchel. Et comme Julien l'a dit, on a vu dans les matchs amicaux contre Uruguay et le Japon que, en fait, on peut discuter les tactiques, mais aussi c'est une question de disponibilité. Et c'est comme ça pour toutes les grandes équipes, mais en fait, c'est clair quand les deux matchs amicaux que sans Harry Kane, on n'a aucune chance. Et ça, c'est un grand problème parce que c'est impossible d'éviter l'importance de Harry Kane. Mais pour Tuchel, il a toujours continué le boulot pour après la Coupe du Monde. Mais c'est clair, même s'il a un contrat, si on sort dans le huitième, par exemple, il ne va pas continuer dans le boulot. C'est impossible de le faire.
Ouais. Alors, Thomas Tuchel, justement, Julien, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. J'imagine que pour son image en Angleterre, ça a fait beaucoup. Tu parlais des relations de Gareth Southgate et du vestiaire. Quelles sont les relations de Thomas Tuchel, justement, avec un Bellingham, avec un Kane, avec un Cole Palmer, des stars en Angleterre? Évidemment, on n'en manque pas. Quel est justement ce rapport de Thomas Tuchel avec toute cette clique de Première Ligue?
Je pense qu'il y a, il y a deux choses ici. Il y a le cas Bellingham d'un côté et après le reste du vestiaire. Le reste du vestiaire, tout se passe très bien. Tu peux même traiter Alexander-Arnold dans le cas Bellingham aussi. On en reparlera tout à l'heure. Le reste du vestiaire, c'est très bien. Tuchel a changé un petit peu des choses dans la vie du groupe, notamment. Pas que ce n'était pas bien sous Southgate, mais je pense qu'il a juste voulu mettre un peu sa patte à lui sur ce vestiaire. Il a reconfiguré un petit peu les espaces de vie, par exemple, à St. George's Park, ce genre de choses-là. Il y a quelques habitudes qui sont un petit peu différentes, mais ça, c'est un peu normal. Il voulait vraiment arriver et puis que ce soit son équipe, son vestiaire, son St. George's Park et tout ça. Bellingham, c'est autre chose. Donc avec eux, avec un Kane, par exemple, avec un Rice, avec les autres grandes stars de cette équipe-là, parmi les titulaires, je parle, parce que Foden, c'est un petit peu différent, Palmer, c'est un petit peu différent, on n'est même pas sûr qu'ils aillent à la Coupe du Monde, d'ailleurs. Avec ça, ça se passe très bien. En revanche, comme on dit, là, déjà un petit peu souligné tout à l'heure, il y a le cas Bellingham. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas le cacher. Entre ce que Tuchel a pu dire sur Bellingham et son ressenti, ce que nous, on sait de la part de l'intérieur, mais aussi ce qu'on voit depuis l'extérieur aussi. Et je pense que Trent est un peu un dommage collatéral, finalement, de ce qui se passe entre Tuchel et Bellingham. Bellingham, c'est un petit peu différent, effectivement. Mais pour le reste, ça se passe très, très bien. Mais Tuchel, c'est quelqu'un qui est dans le management, qui est génial. Hein. C'est un gars qui est fun, même s'il peut être strict et très allemand et très germanique et très discipliné. C'est quelqu'un qui est aussi très fun et avec qui les joueurs ont un très bon contact.
Bon, bah alors, un mec avec qui peut bien s'entendre, qui est un petit peu germanique aussi aujourd'hui, c'est Harry Kane. Andy, qui a débloqué des lignes sur son palmarès, il est enfin champion d'Allemagne. Il a marqué 137 buts en 140 matchs avec le Bayern. Il a 32 ans aujourd'hui. Avec 78 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. C'est la star incontestée de cette équipe. Tu l'as dit tout à l'heure, Andy. Des joueurs comme ça, même dans l'histoire, la grande histoire de l'Angleterre, il arrive quand même à ressortir par le haut. Il est exceptionnel en ce moment.
Oui, tout à fait, il est exceptionnel. Mais aussi, je pense qu'un grand plus pour l'équipe de l'Angleterre, c'est qu'il est parti de la Premier League. Parce que, en fait, c'est enlever la pression physique sur lui. Et bien sûr, il n'est pas jeune. Donc, il faut le gérer. Et en fait, il a trouvé un coach qui sait bien comment le gérer, Vincent Kompany. Donc, c'est très important pour nous et c'est un grand avantage pour nous. Parce que, bien sûr, que tout le monde peut-être les gens en Angleterre, les fans de foot qui regardent par le Bayern chaque semaine, a dit depuis le début de la saison ou depuis Noël quand même, depuis les trêves, que peut-être Kane peut égaler ou dépasser le record de but de Bundesliga de Robert Lewandowski dans une saison. Mais en fait, Kompany a toujours dit, en fait, ce n'est pas important pour nous. Pour nous, l'important, c'est que Harry reste en grande forme, qu'il reste fraîche, qu'il reste prêt et tout ça. Et en fait, il a laissé sur le banc beaucoup. Dans les dernières semaines. Et en fait, ça, c'est un grand avantage d'avoir un Harry Kane qui va arriver aux États-Unis en forme, bien frais, Pour nous, c'est incroyable parce que c'est très difficile d'imaginer dans le passé. Parce que, par exemple, à Tottenham, même s'il était blessé, il n'a jamais fait une pause. Jamais. Et ça, c'est un problème. Et peut-être que c'est un problème pour l'équipe de l'Angleterre en général, qu'on joue beaucoup des matchs de haute intensité dans la Premier League. Si tu ajoutes la compétition en Europe, par exemple, c'est très difficile d'arriver à la Coupe du Monde en grande forme. Mais en fait, il y a deux côtés de Harry Kane. Il y a le truc... Il a beaucoup de chances de se reposer avec Vincent Kompany, mais aussi c'est le fait qu'il joue en Ligue des Champions régulièrement pour la première fois, parce qu'il a joué peut-être deux, trois fois avec Tottenham en Ligue des Champions. Ce n'est pas une équipe qui arrive en Ligue des Champions chaque saison, donc c'est important pour son niveau. Et aussi, c'est vraiment clair que Bayern est une équipe tactiquement parfaite pour lui. Et il a vraiment développé son jeu en Allemagne. Donc, il y a des gens qui ont dit que finalement, on a reconnu que Harry Kane est un joueur de classe mondiale. C'est pas ça.
Mais on enregistre actuellement le 1er mai. Pour l'instant, on est entre les deux PSG Bayern. Donc, peut-être sera-t-il vainqueur de la Ligue des Champions aussi. Ça pourra changer le cours de sa carrière. Julien, juste pour l'anecdote, après, on parlera de Morgan Rodgers, qui est le joueur à suivre, selon toi, lors de ce prochain mondial, le milieu offensif d'Aston Villa. Pour l'anecdote, Bellingham en Liga, Kane en Bundesliga et un coach étranger aussi. Ça peut apporter cette petite touche différente pour cette sélection anglaise qui est d'habitude ultra centrée sur la Première Ligue.
Ouais, et puis surtout des vainqueurs. C'est ça le truc, c'est que Bellingham a déjà gagné la Ligue des Champions, Tuchel a gagné la Ligue des Champions, Kane va peut-être gagner la Ligue des Champions cette saison, alors qu'avant, que ce soit un Southgate par exemple, qui n'avait jamais rien gagné comme entraîneur. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui continue mes tacles sur le Sylvain Ripoll anglais, mais c'est un peu ça quand même, je suis désolé, mais à un moment, il n'avait jamais rien gagné, il ne savait pas ce que c'était de gagner non plus. Et on pouvait regarder les joueurs et c'était pareil, tu avais des joueurs certes qui avaient pu gagner dans leur club, notamment des premières ligues, etc. Mais ça pouvait devenir plus difficile collectivement, ou en tout cas chez tes leaders, comme Harry Kane encore à Tottenham, comme l'a dit Andy, ou à part la finale, bien sûr, perdu contre Liverpool de Ligue des Champions, c'était pas, ça n'a jamais joué les sommets de Ligue des Champions non plus avec les Spurs. Là, ce serait différent. Si tu arrives avec des leaders qui ont déjà tout gagné et un entraîneur qui a déjà tout gagné aussi, forcément, la dynamique, elle change, notamment dans les moments clés de match à élimination directe, des matchs couperets, ces moments-là où, pour revenir au pénalty contre la France au Qatar, par exemple, Harry Kane, cette saison, il le marque, le deuxième penalty. Donc oui, ça peut tout changer, effectivement.
Alors, parle-nous de Morgan Rodgers, qui est pour toi le joueur à suivre, qui marche fort à Aston Villa cette saison. Il a 23 ans, 13 sélections, un seul but. Il a été formé à Manchester City. Et en plus, c'est un pote d'enfance de Jude Bellingham. Et au rythme où il va, il pourrait quasiment pousser Bellingham sur le banc des remplaçants pour le Mondial 2026. Ou je vais peut-être un peu vite, Julien.
Non, c'est ça, Aurel. Pour moi, si la Coupe du Monde commence demain, avec le premier match de l'Angleterre, Rodgers est titulaire en 10 derrière Kane. Pour Tuchel, c'est vraiment le meilleur duo, la meilleure combinaison entre son 9 et son 10, plus qu'un Kane et Foden, plus que Kane et Palmer, plus que Kane et Bellingham, plus que tout ce que vous voulez. C'est pour lui, pour Tuchel, le meilleur, vraiment cette meilleure paire-là. Parce que Rodgers, finalement, et c'est vrai, si on regarde tactiquement, mais même techniquement aussi, complète Harry Kane parfaitement.
Mais est-ce que Thomas Tuchel va oser faire ça, mettre Bellingham sur le banc pour mettre Morgan Rodgers?
Pour l'instant, en tout cas, il l'a fait à chaque fois. Et si on se refait, à la dernière trêve internationale, où il avait divisé, en gros, on va le dire, pour faire simple, son effectif en deux, les remplaçants avaient joué contre l'Uruguay, les titulaires auraient dû jouer, s'ils avaient tous été fit et prêts physiquement, ils auraient dû jouer le deuxième match contre le Japon. Et Rodgers aurait joué le deuxième match contre le Japon, donc dans la dernière trêve avant l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde, ça aurait été Kane et Rodgers ensemble, les deux en 10 et en 9. Donc pour moi, pour l'instant en tout cas, tous les signaux pointent vers le fait que ce soit Rodgers titulaire et pas un Bellingham, pas un Foden, pas un Palmer. Et d'ailleurs, parmi ces trois-là, il y en a un qui devrait rester à la maison parce que tu ne peux pas non plus prendre 4 numéros 10 dans un effectif.
Et oui. On va voir d'ailleurs, pour ceux qui regardent sur YouTube et l'After Foot TV, le 11 probable de l'Angleterre à la Coupe du Monde. On rappelle avec la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L. Andy, tu me disais avant l'émission que le 11 n'était pas si clair que ça pour l'instant. Dans les buts, a priori, on aura Jordan Pickford, comme c'est le cas depuis plusieurs années, même s'il y a eu des essais. Et ensuite, je me suis appuyé sur les gros matchs des dernières semaines. On voit notamment Elliot Anderson au cœur du jeu, Gueye Kansa en défense, Rhys James à droite, Bukayo Saka, Cole Palmer. Est-ce que cette équipe-là te paraît cohérente sur le papier, Andy?
Je ne suis pas sûr parce que, comme j'ai dit avant, je pense qu'il y a peut-être 5 joueurs, 6 joueurs dans l'équipe titulaire qui peuvent être sûrs de la place dans le 11.
Tu mets qui comme sûr et certain dans le 11? Tu mets qui?
Pour moi, Pickford, Gueye, Declan Rice, Harry Kane, Bukayo Saka, et okay. C'est tout. Et les autres sont discutables. Le problème avec Rhys James, par exemple, c'est pas un problème de qualité, mais c'est une question de la forme. Et franchement, il est blessé tout le temps. Sans ça, il est peut-être dans les 20-25 meilleurs joueurs du monde pour moi. Mais le problème, c'est que, en fait, en latéral droite, juste pour parler de cette position-là, on a parlé depuis longtemps qu'on a beaucoup des options, beaucoup trop des options, comme Julien a dit avec notre numéro 10, qu'on a Livermento, Alexander Arnold, on avait Kyle Walker et Kieran Trippier, qui sont tous les deux retraités maintenant. Mais, Alexander Arnold ne va pas aller, c'est clair, parce qu'il n'y a pas de courant entre lui et Thomas Tuchel. Il y a des blessures à répétition pour Rhys James et pour Livramento. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de choisir. Je suis d'accord aussi avec Julien, avec le cas de Jude Bellingham. Et c'est très difficile d'accepter pour moi, parce que pour moi, il est le joueur le plus talentueux dans cet effectif. Mais c'est clair qu'aussi, il avait le problème tactique et de la forme dans les derniers 2 ans. Et c'est clair, et Thomas Tuchel a fait très clair, il n'est pas titulaire pour le moment. Et franchement, Morgan Rogers mérite sa place. Mais l'autre problème pour Bellingham, c'est l'émergence de Elliot Anderson, qui a été excellent dans les derniers 18 mois. Et peut-être c'est lui le plus naturel choix à côté de Declan Rice.
Et avec tout ce qu'on a dit, merci beaucoup Andy, Julien, donc l'Angleterre dans le groupe L face à la Croatie le 17 juin à Arlington, c'est dans le Texas, Angleterre-Ghana le 23 juin, Panama-Angleterre le 27 juin. On peut imaginer évidemment qu'avec les 8 meilleurs 3e, l'élimination au premier tour, c'est proscrit, c'est interdit pour l'Angleterre, surtout vu son parcours lors des dernières années. L'objectif, c'est d'être champion du monde, Julien, encore une fois.
Ouais. Ouais, bien sûr, hein, comme à chaque fois, mais là encore plus peut-être, comme Andy l'a dit, Tuchel est là pour ça. Hein. C'est la mission. Il y a pas de demi-finale, ce serait bien. Il y a pas de, on est là pour apprendre. Il y a pas de, on prépare déjà celle d'après. Non, c'est celle-là qu'il faut gagner. C'est la dernière d'Harry Kane. Je vois pas comment il pourrait être là dans 4 ans avec un talent pareil. Si tu mets pas tout à sa disposition pour que justement il t'amène jusqu'en haut, ça sert à rien qu'on y aille, ça sert à rien qu'on joue au foot pour les Anglais, quoi. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de gagner. Ça va passer dans la phase de poule, c'est sûr. Ils devraient même finir premier normalement. Et puis après, on verra bien le tirage. Rappelez-vous, en 2018, ils avaient eu le bon côté du tirage. Oui. Finalement, en 2022, pas forcément, parce qu'ils avaient joué la France dès les quarts de finale. Donc on verra un petit peu ça. Mais oui, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Et sincèrement, ils ne devraient pas être très loin non plus. Hein. Si c'est pas demi-finale, c'est un échec pour moi.
Bon, on espère pour l'Angleterre. Merci beaucoup Andy Brassel, animateur du podcast On the Continent OTC. Merci beaucoup Julien Laurence, la drôle de dame Angleterre de RMC. Vous avez un épisode par nation, les 48 qualifiés à la prochaine Coupe du Monde. Vous la vivrez en intégralité sur RMC du 11 juin au 19 juillet. J'aurai récupéré ma voix d'ici là. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao les amis.
RMC After Coupe du Monde. Les 48 équipes.